Canada. Découvrez comment votre entreprise peut expédier et économiser à postecanada.ca/meilleur tarif Montréal. Des conditions s'appliquent.
Salut, c'est Tony.
Prêt pour une expérience mémorable à New York avec Voyage Gendron du 21 au 23 août?
On ira voir les Blue Jays contre les Yankees et découvrir la grosse pomme.
Le forfait à partir de $695 par personne en occupation double comprend
transport en autocar de luxe, deux nuits d'hébergement,
deux petits déjeuners, ton billet pour la partie,
tour de ville guidé et du temps libre pour explorer New York.
C'est l'aventure parfaite pour les amateurs de sport. Va sur gendrontour.com.
C'est l'événement L'Avenir commence maintenant de Hyundai. Je veux de la grosse offre sur le terrain. Marie-Lou, plan de match.
On entre en jeu avec le Tucson Preferred Attraction Intégrale 2026 en location à 99 $ par semaine et 0 $ d'acompte.
Oh, j'aime ça!
Puis on surclasse à la version hybride pour seulement 14 $ de plus par semaine à la location.
Continue!
On les assomme avec la garantie sur véhicule neuf de 5 ans de Hyundai, puis on joue ça à domicile dans tous les concessionnaires Hyundai.
Allez!
Location de 60 mois au taux de 4,19%. Des conditions s'appliquent. Visitez Hyundai Canada pour les détails.
C'est la saison des cornets chez McDo. Les cornets à la vanille sont à seulement 1 $ plus taxe tout l'été. Et nos cornets vont vous faire craquer. Seulement 1 $ plus taxe, exclusivement sur l'appli McDo. Téléchargement de l'appli et inscription requis dans les McDo du Canada participants.
À Montréal, toujours live sur le YouTube de BPM.
100% sport.
Dans une ville où le hockey domine, une seule radio soulève la coupe jour après jour. Le phénomène BPM. Pendant que toutes les autres stations te parlent de ce qui va mal, ici, c'est 100% sport. Avec toujours plus d'opinions, plus de débats, plus de fun. Toujours la radio de sport numéro 1 au Canada.
91.9
BPM Sport. Partout au Québec et toujours live sur le YouTube de BPM, t'écoutes le club du matin.
They wanna get mad.
Fais partie du club
de Montréal. 514-790-0919. 1-888-790-0919.
T'écoutes le club du matin.
Le club!
Oh, on l'a eu, il était bon lui. Bon mardi tout le monde, bienvenue dans le club du matin. Merci d'avoir synthétisé BPM Sport pour commencer votre journée. Merci d'être à l'écoute, peu importe où vous êtes. Peu importe de où vous nous écoutez, du 91.9 à Montréal, 100.9 à Québec, 96.5 à Gatineau, sur l'application mobile de BPM Sport, sur notre diffusion en direct sur YouTube, où, pas mal ça, là. Je pense que ça fait pas mal le tour. Olivier Paiement avec vous pour les 4 prochaines heures, accompagné par mon acolyte habituel cet été, Hugo Reich. Comment ça va, Hugo?
Salut, Ali, ça va super bien, toi, mec?
Mec?
Ben oui. On dit des nouveaux surnoms aujourd'hui.
On est sur le plateau ici. On peut utiliser des expressions comme ça.
Et voilà.
On est sur le plateau pour le moment. Parce qu'éventuellement, on est supposé déménager.
Et voilà.
Et sur la rive sud, on va sortir des expressions différentes.
On a une grosse émission
aujourd'hui. Ce matin, il y a une nouvelle qui est tombée. Une nouvelle d'une importance capitale, je dirais, d'une importance vraiment intéressante pour les amateurs de hockey québécois. C'est sorti dans la presse. On aurait la confirmation des différents diffuseurs à la télévision pour le Canadien. On savait qu'RDS allait avoir 45 matchs à la place de 60, ce qu'il y avait pour les 12 dernières années, mais les 39 matchs restants, les séries éliminatoires, écoutez, on était rendu à la mi-juillet, puis on savait toujours pas ça allait être où, quand, comment, pourquoi. Là, on aurait eu la réponse. On va bien évidemment revenir sur ça avec vous. Bon, c'est terminé pour la Coupe du Monde, mais je pense que c'est important quand même de dresser un bilan de cette compétition-là. Ça a été un événement très, très marquant. Première Coupe du Monde au Canada, en partie, avec les États-Unis et le Mexique. On va dresser un bilan de tout ça. Qui sont les gagnants, qui sont les perdants de la compétition? Et comme à l'habitude, on va avoir notre équipe de collaborateurs chevronnés qui va se joindre à nous, Nicolas Saint-Pierre, Marco D'Amico. On a un petit nouveau, Jean-Sébastien D, que vous avez énormément apprécié dans le Club du Matin cette année. Ben, il va venir faire son tour 2-3 fois par semaine, JS. Toujours intéressant, comme à l'habitude. C'est un gars qui n'a pas sa langue dans sa poche.
Non.
Puis qui joue encore la game, là. Je veux dire, la saison passée, il a joué en KHL, il a joué dans la DEL allemande, il n'y a pas si longtemps que ça. Il était dans la LNH, il était dans la Ligue américaine, il connaît encore plusieurs des joueurs qui sont actifs à travers la Ligue, fait que ça donne vraiment une perspective qui est intéressante sur l'actualité sur la planète hockey. Donc j'ai bien hâte de parler à JS. On a un invité spécial dans une heure et demie environ, Pierre Gens, parce que vous le savez, depuis quelques jours, on célèbre en quelque sorte les 50 ans des Jeux olympiques de Montréal qui ont eu lieu à l'été 1976. Et Pierre Gens a récemment fait paraître un livre très, très intéressant sur le sujet. Il va pouvoir nous en parler parce que, tu sais, souvent, on dirait que les Jeux de Montréal ont une connotation négative. Il y a beaucoup de négativité qui entoure cet événement-là. À cause des coups, à cause des boycotts, de ci, de ça. De... Le stade olympique.
L'emplacement, tout court.
Tout.
Ouais.
Mais c'est important de remettre les choses dans leur contexte et c'est ce qu'on va faire avec Pierre Gens parce que les Jeux de Montréal ont été marquants, mais aussi pour des raisons positive, il va venir nous raconter ça plus tard à l'émission. Et vers la fin de l'émission, on va avoir un invité spécial. C'est un auditeur, mais c'est aussi quelqu'un qui lance un projet vraiment intéressant. Bruno Philippe Desfossés. Pourquoi est-ce qu'on veut lui parler? Ben, c'est parce qu'il a lancé une plateforme dans les derniers jours qui va énormément intéresser les étudiants athlètes, les parents d'athlètes, les entraîneurs, les recruteurs. Ça s'appelle Nexus. C'est une plateforme vraiment pour simplifier tout ce qui a trait au recrutement sportif pour les jeunes ici au Québec. On sait que c'est un gros enjeu, c'est pas facile. Il y a des imposteurs, des gens qui essayent peut-être de se faire de l'argent ou en d'aller chercher un certain pouvoir sur le dos des parents, des athlètes, des entraîneurs. On va parler de tout ça avec Bruno Philippe là, pour vraiment comprendre son projet et essayer de voir les solutions à travers tout ça. Hugo, t'as passé une bonne journée hier?
Ouais, vraiment, une bonne journée. Écoute, on a écouté les Blue Jays, on t'a joué au baseball aussi. Okay. Les Giants dans LBA 35, je les salue. Défaite de Crèvecœur en fin de partie, malheureusement.
Ah,
mais je salue Jacob Lacharté qui travaille avec nous autres, qui va être là un peu plus tard à l'émission, qui a très bien fait sur la butte, Jacob.
Okay.
C'était excellent. Excellente journée. Journée très baseball, comme d'habitude.
Je te dirais que la plupart de tes journées, depuis que je te connais, en tout cas l'été, puis même l'hiver, sont très baseball. Parce
c'est
que
très
tu coaches,
baseball,
tu joues, t'écoutes, tu animes des affaires, si ça. T'es un gars de balle.
Un gars de balle.
Tu t'habilles même comme un gars de balle la plupart du temps.
Justement,
pas aujourd'hui, par contre.
Non, mais hier, je coachais un double aussi à Longueuil.
Comme si rien n'était. Un petit programme double.
Ouais, exactement.
Pas de Mercy Rule cette fois-ci.
Oh, c'est encore drôle.
Non. Un ou deux?
Un, ça va.
Ah, ben
match
très
serré. On a perdu en manche de prolongation au premier match.
OK.
On a bousé une avance.
OK.
Mais les gars, ils vont être là, ils vont comprendre. C'est des séries qui importent.
Exactement.
Faut être là pour les séries. Allez. Toi?
Journée relax hier, là. Blonde, elle part à New York cette semaine avec sa famille.
OK.
Ils sont peut-être à l'écoute en ce moment. Ils sont partis ce matin.
OK.
Fait que là, je suis comme... pas excité, mais c'est un sentiment un peu bizarre. Là, je suis comme tout seul à l'appart.
Ouais. Tu peux faire
c'est un petit peu comme le feeling quand t'es ado.
Ouais.
Puis tes parents, ils partent, je sais pas, une fin de semaine, ils vont à un chalet ou peu importe. Là, t'es comme nerveux. Là, tu sais pas trop quoi faire. Là, quand t'es ado, évidemment, tu fais peut-être un peu des niaiseries, t'invites tes amis, décides ça. Là, je suis un adulte responsable, évidemment. L'appart va encore être en un morceau quand elle va revenir, mais là, c'est comme, je sais pas quoi faire de ma vie. Là, en tout cas, fait que je vais me trouver de quoi faire tantôt.
C'est sûr.
En tout cas, il y en a qui se sont trouvés de quoi faire, c'était les Espagnols. Hier, 2 millions de personnes dans les rues de Madrid pour célébrer cette Coupe du Monde. Beaucoup de Québécois sur place aussi, beaucoup de touristes, là, parce que, évidemment, c'est une destination voyage très populaire. Ça doit être quelque chose, ça. Je sais pas s'il y a des gens à l'écoute qui ont déjà vécu quelque chose comme ça, de... T'sais, tu voyages dans un pays, tu voyages dans une ville, quand ils remportent un championnat, quand ils mettent la main sur un titre, mais ça doit être un feeling très, très spécial.
Mais t'étais pas en France, toi, il y a quelques années, quand...
T'as raison, je dis ça, mais je l'ai fait moi aussi.
Ouais, c'est ça.
Non, j'étais à Paris lorsqu'ils ont remporté la Ligue des Champions.
Ils
viennent d'en gagner deux de suite, mais en 2025 aussi, ils l'ont gagné. J'étais sur les Champs-Élysées.
Ça devait être fou.
C'était complètement fou. La pagaille a pogné assez rapidement, je te dirais, parce que c'est les Français, là. À peu près n'importe quoi qu'ils font, ça vire comme ça, ça vire en émeute. Mais tu sais, de voir l'excitation, la frénésie à travers la ville, les terrasses qui étaient complètement remplies, puis là, sur les Champs-Élysées qui étaient pas juste fermées, barrées, là, mais barricadées, avec les magasins qui étaient les vitrines complètement placardées. Puis là, ensuite, tu voyais que rapidement, la soirée, elle a quand même commencé à dérailler. Puis j'étais là pour ça, tu sais, un petit peu comme un touriste innocent, mais c'était fascinant à voir. Steven qui nous dit qu'il était à la parade de ses Capitals. Capitals de Washington, j'imagine, pas les capitales de... Oui, Capitals de Washington. Okay. Ça devait être cool. La fameuse coupe où Ovi a décidé de se baigner à travers les différentes fontaines de la ville de Washington.
Ben oui.
En tout cas, ça, c'est toujours le fun de vivre ce genre d'expérience sportive.
Il aurait pu dormir dans la fontaine, Ovi. Il était bien. On le voyait.
Il était vraiment bien.
Exact.
Il a d'ailleurs dit hier que c'est la coupe ou rien pour les Capitals cette année.
Ben, c'est quand même assez véridique. Ils se sont améliorés.
Hey, tu parles d'une équipe qui a été agressive pendant la saison morte. Ouais. Ça, c'en est une, Alex Ovechkin. Mais... Et les Capitals, on va sûrement en parler un peu plus tard à l'émission. Mais pour l'instant, c'est le temps de commencer pour l'édition du 21 juillet 2026 dans le Club du Matin. C'était la question qui était sur toutes les lèvres. Le calendrier de la LNH a été dévoilé la semaine passée, mais on connaissait toujours pas l'identité de tous les diffuseurs francophones à la télé au Québec. On le savait depuis quelques mois déjà, mais RDS va avoir quelques matchs de moins. Dans les dernières années, RDS présentait 60 matchs par année, sauf que ce qu'on a appris plus tôt dans la saison, c'est que ce serait juste 45 pour RDS l'an prochain. Maintenant, la question, qu'est-ce qui va se passer avec les 39 autres parties? Parce que le calendrier de la LNH passe maintenant à 84 matchs. Et les séries éliminatoires, on le savait toujours pas. Ben là, on vient de l'apprendre, c'est sorti ce matin dans la presse. Selon leurs informations, c'est le journaliste Richard Dufour, ce serait fait. Qu'est-ce qu'on va avoir droit? Ben, TVA Sport aura 10 matchs de plus. Ils en présentaient 22 par année, ce sera maintenant 32. Donc, plus juste les matchs du samedi soir, là, dans le cas de TVA Sport, ouais. On s'entend, c'était essentiellement ça. Ils vont en avoir 10 de plus. Ils vont aussi préserver leur diffusion des séries éliminatoires. C'est une entente de 12 ans. La valeur est inconnue. Et là, si vous faites des maths rapides, ben 32 plus 45, ça fait 77. Qu'est-ce qui va se passer avec les 7 autres matchs? Nouveauté au Québec. Il y a un nouveau joueur qui se joint à la diffusion sportive francophone du Canadien de Montréal. C'est un streamer. C'est Amazon Prime qui va présenter cette match. On le sait que dans les dernières années, il diffusait le fameux match du lundi soir, souvent, en anglais, ouais. Là, en prime time au Canada, le Canadien qui a participé
deux, trois fois,
quelques reprises. Le fameux match de 7h30 qui commence genre à 7h48. Là,
au final, ouais, c'est ça.
Que nous, sur les chiffres du matin, on déteste. Ben, voilà, maintenant, ce serait fait. Écoute, c'est une bonne nouvelle, je pense, de manière générale, Hugo, que ce soit fait, que TVA Sport conserve encore de la diffusion des matchs du Canadien. En tant que artisan des médias sportifs québécois, puis je pense qu'en tant que Québécois, point, on doit se réjouir qu'on va avoir deux télédiffuseurs plus un troisième dans le streaming pour le Canadien de Montréal. C'est sain.
Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi, puis aussi, ça ajoute une certaine valeur, parce que on l'a vu, et malgré le fait que ça a commencé un peu plus tard sur Prime, on a quand même une appréciation de la qualité de la diffusion, tu sais, on a plus de caméras, la qualité aussi des caméras en 4K, c'est incroyable, la rapidité du jeu est tellement mieux présentée, mais le fait justement qu'on rentre dans cette période transitoire-là où il y a des streamers qui vont se joindre au mix de plus en plus, ça se fait déjà.
Ben, on le voit dans les
autres
sports. Tu sais, hockey, on l'a dit, ça a commencé avec Amazon Prime, mais t'as raison. On en parlait la semaine passée, le baseball commence à avoir des matchs sur Netflix. Dans la NFL, ça fait plusieurs années que Amazon Prime a maintenant les matchs du jeudi soir. Netflix a commencé à présenter quelques matchs par année, notamment ceux de Noël, qui sont diffusés sur Netflix. T'as Peacock, certaines plateformes aussi qui en ont dans la NBA. C'est inévitable. C'est la nouvelle réalité.
Exact.
Puis, tu sais, faut pas se surprendre de ça. Vous le savez, le câble, ben chaque année, il y a de plus en plus de gens qui se débranchent de ça. Mm-hmm. Les plus jeunes, les gens de notre génération, la génération Z, plus souvent qu'autrement, ils ne sont tout simplement pas abonnés au câble. Bref.
As-tu le câble chez vous, toi?
Non, moi, j'utilise le streaming.
C'est
cher en plus quand même le câble, mais bon, quoique maintenant avec tous les abonnements de streaming que ça prend, ça revient pas mal pareil, là. Mais
c'est cool,
c'est la nouvelle réalité.
Ouais.
Et l'autre réalité aussi, c'est que on connaît pas encore les montants, là, mais Amazon Prime, les Netflix, les Apple TV de ce monde qui, eux, ont les matchs en MLS, je peux te dire qu'ils ont les poches profondes, eux.
Ben oui, c'est sûr.
Sont financièrement, sont pas mal plus en santé que nos diffuseurs qu'on a ici, que nos médias. Fait qu'eux, ça leur dérange pas à la limite de perdre de l'argent à plus court terme pour être capable de développer ce produit-là à long terme.
Non, puis d'assurer comme vraiment, comme j'ai dit, comme un produit de qualité. Mais en même temps, pour les gens plus traditionnalistes, ça fait du bien de voir que le Canadien est quand même bien nanti en termes de diffusion. Là. On est bien couvert, puis on va garder quelque chose qui a été déjà établi pendant des années.
C'est un bon point que tu donnes, Hugo, parce que c'est vrai que la compétition, c'est sain. C'est sain qu'on n'ait pas un monopole, que ce soit pas juste un diffuseur qui va présenter tous les matchs. Parce que le fait d'en avoir trois, ça force tout le monde à être meilleur. Tu as parlé de la qualité de la diffusion d'Amazon Prime. C'est vrai, là, écoute, leurs caméras sont excellentes. Ils ont essayé d'innover sur certains aspects. Là, ça reste que la réalité, c'est que pour la première fois depuis très, très, très longtemps, ben, il va y avoir des matchs du Canadien qui vont pas être en français sur le câble.
C'est ça.
Et ça change. Ça, c'est marquant. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose, je pense, qui est difficile à avaler pour certaines personnes. Le match va être en anglais. On le sait que
ouais, vous allez pouvoir le trouver
TSN,
partout, ouais.
Sportsnet, ils vont diffuser tous les matchs du Canadien en anglais. En français, non. Alors, ben, pour certaines personnes, ça va être la perte d'une habitude. Il y a des gens qui sont tout simplement pas abonnés à une plateforme comme Amazon Prime. Je lisais avant de commencer l'émission que c'est à peu près 40% des Québécois qui sont abonnés à Prime Video. Ça, c'est selon une étude de l'Université Laval. J'imagine que ce chiffre-là pourrait augmenter parce qu'il y a des gens qui sont peut-être pas abonnés puis qui vont se dire ben je veux le faire parce que je veux être capable d'écouter le Canadien. Mais il y a aussi beaucoup de gens, peut-être des gens qui sont un petit peu plus âgés pour qui ben c'est trop compliqué ou il est hors de question de faire quelque chose comme ça.
Déroger un peu des
et ces sept matchs-là, ils vont pas pouvoir les écouter.
Non.
C'est la réalité. C'est la triste réalité peut-être, mais c'est aussi je pense la réalité du monde médiatique dans lequel on vit en 2026. Puis c'est dommage ce que je vais dire, mais ça reste que les diffuseurs, de toute façon, c'est pas ce public-là qu'ils visent. Le public qu'ils cherchent, les annonceurs, c'est les 25-54.
C'est la trame d'âge vraiment visée, mais aussi pour les gens qui sont pas dans ces habitudes-là. Mm-hmm. À place de prendre ça sur les talons, t'sais, vous voyez ça vraiment comme une belle opportunité de divertissement. Parce que au final, ces plateformes-là, c'est ça qu'ils vont faire. Ils veulent améliorer le spectacle. Puis ils réussissent à le faire.
Ouais. C'est juste que ça va compliquer peut-être la vie des gens.
Ouais.
C'est un abonnement de plus peut-être pour certains. Ça, ouais. C'est plus cher.
C'est
le
sûr.
Coût de la vie qui continue d'augmenter. Il y a plusieurs personnes aussi qui nous le font noter. Le streaming illégal va augmenter. Ça, c'est une réalité. Ça existe. Je pense que c'est indéniable à ce point-ci. Les fameux IPTV de ce monde, il y en a de plus en plus. Tu peux avoir accès à tous les postes de télé sur toute la planète, tous les films, toutes les séries, peu importe, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Puis c'est vrai que plus tu rends la vie compliquée aux gens, ben plus tu encourages ce type de manœuvre, je veux dire entre guillemets, illégale.
Mm-hmm.
Puis le problème avec ce raisonnement-là, c'est que si tout le monde se réveille demain matin puis dit « Ah, ben, je vais m'abonner au IPTV. Je vais m'abonner au streaming illégal. » Ben, c'est parce qu'après ça, ça va être qui va être pogné pour qui pourra les payer, les diffuseurs? Comment est-ce qu'eux, ils vont être capables de faire de l'argent pour ensuite les présenter, pour ensuite que les IPTV de ce monde, ils piratent un peu le signal puis ils le diffusent? Tu vas finir par payer dans le vide. Au final, les diffuseurs, que ce soit RDS, TVA Sport, ils ont besoin qu'il y ait des gens qui sont abonnés directement à leur service pour être capables de rentabiliser leur investissement puis pour être capable ben, de le présenter.
Ouais, effectivement. Puis ça va être aussi, tu sais, malheureusement, pour eux, ça va être aussi un problème à régler. Comment on va être capable de contrer ça, de cerner ça, de captiver l'attention des gens qui sont déjà là, qui sont déjà établis, qui vont pas voir ça comme une porte de sortie, des IPTV, tout ça de ce monde. Donc encore un argument de plus pour soit améliorer le spectacle ou soit être capable de rendre ça vraiment abordable.
Ouais.
Puis ça, ça va être une opportunité justement de créer cet équilibre-là dans cette période transitoire-là. Il y a beaucoup de choses que les gens vont apprendre là-dedans, mais les diffuseurs aussi vont en apprendre beaucoup dans cette période-là. Parce que c'est une compétition, mais c'est une compétition saine.
C'est une compétition qui est saine, qui est pas égale non plus. On se bat pas à armes égales.
Non.
Mais je suis curieux de savoir, le 514-790-0919, C'est quoi votre réaction par rapport à tout ça? Vous êtes des consommateurs, vous écoutez le Canadien de Montréal à peu près tous les matchs. Là, si vous êtes des auditeurs réguliers de BPM Sport, c'est que les matchs, vous en manquez à peu près pas. C'est quoi votre réaction face à cette nouvelle-là? On va avoir 45 matchs sur RDS, 32 sur TVA Sport et 7 sur Amazon. Je veux vous lire, je veux qu'on réagisse ensemble parce que c'est un sujet qui nous touche tous. Tu peux pas avoir d'opinion par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui nous disent, Duro, par exemple, moi, je vais écouter ces 7 games-là en anglais. Il y a des gens qui disent que, bon, c'est la nouvelle réalité dans le sport professionnel. Yvan, il dit, c'est de la merde. Vraiment, c'est quelque chose qui fait énormément réagir. Il y en a qui disent, je vais écouter à la radio à la place. Je t'abonne à tout, c'est correct. Nicolas nous dit ça. Du côté de TVA Sport, regarde, je vais le dire, puis on dirait que c'est comme populaire de bâcher TVA Sport. Mais je suis vraiment content qu'ils aient des matchs parce que qu'ils restent encore en vie aussi, évidemment, là, parce qu'un va avec l'autre.
Évidemment.
Mais les gens à TVA Sport travaillent extrêmement fort pour nous offrir quand même un bon produit. L'amélioration, elle est constante année après année. Pour moi, la diffusion à TVA Sport, elle ne cesse d'augmenter en termes de qualité. Puis, tu peux jamais chialer sur plus de jobs pour les gens dans les médias sportifs. Plus de compétition aussi. On le dit depuis tantôt, c'est une compétition qui est saine. Ça aurait été vraiment triste là, que le TVA Sport soit pas en mesure d'avoir des matchs du Canadien dans le prochain contrat de division parce que ça aurait peut-être mené à leur fermeture.
Tu fais bien de le souligner par contre parce que c'est vrai que l'amélioration est là. Puis ça, c'est vrai que la qualité grandit davantage. Puis c'est devenu une habitude chez les gens aussi de regarder autant RDS que TVA Sport, là, vraiment, donc chapeau à eux.
Éric nous demande, est-ce qu'ils ont annoncé qui allait faire la diffusion des matchs en français sur Amazon? Pas encore. J'imagine que c'est Amazon qui vont l'annoncer eux-mêmes une fois que ce sera officiel. J'ai hâte de voir aussi, parce que ça ouvre la porte peut-être à une nouvelle équipe de diffuseurs, ou est-ce qu'on va tout simplement prendre ceux d'un autre réseau, prendre un duo qui existe déjà, ou peu importe, ou est-ce qu'on va essayer quelqu'un de nouveau, donner des nouvelles chances à des plus jeunes, ou peu importe. J'ai vraiment hâte de voir par rapport à ça, et c'est pour ça que je dis, plus t'as de joueurs dans cette industrie-là, ben plus c'est bon, parce que plus tu donnes d'opportunités, plus tu offres quelque chose potentiellement de qualité aux Québécois. Yannick qui nous dit, c'est quand même frustrant de ne pas être en mesure d'avoir tous les matchs en français à la télé. Je suis pas un fan de TVA Sport, mais je préfère à TVA que sur une autre plateforme anglophone uniquement, ça c'est sûr. Danny qui nous dit, je comprends les changements, même si je suis encore un dinosaure avec le câble, je vais devoir m'adapter.
Ouais, ça fait partie de cette transition-là. Ouais. Ça fait partie de cette transition-là, puis vous allez voir peut-être que vous allez être mécontent en ce moment, mais une fois que vous allez créer une habitude puis une routine par rapport à ça, c'est comme...
Ouais, mais il faut faire attention avec ça, Hugo. Parce que rappelle-toi, il y a quelques années, Apple TV, qui annonce en grande pompe, on va être les diffuseurs en MLS.
Ouais.
En soi, c'était vu comme une nouvelle grandiose, moderne, innovante, etc.
Ouais.
Ça a fait extrêmement mal à la MLS, ça a fait extrêmement mal à des équipes comme le CF Montréal notamment. Je le sais que oui, il y a des matchs qui sont diffusés à RDS, mais le fait que ce soit pas tous tes matchs qui soient disponibles à la télévision traditionnelle, ça fait que t'as perdu une grosse partie de ton auditoire. Parce que c'est pas vrai qu'on est encore rendu au point où cette habitude-là, elle est entièrement développée pour tout le monde.
Je suis d'accord avec toi.
Alors il faut faire attention avec ça. Puis c'est pour ça que je pense que 7, pour le moment, c'est correct. Mais il faudrait pas se surprendre que dans 12 ans, dans le prochain contrat,
ça soit 50-50.
Ce soit pas mal plus que 7.
Ouais.
Tu sais, ou que ce soit. Je peux même pas imaginer, on va être où dans le monde des télécommunications dans 12 ans. Alors voilà.
Ouais. Ça va évoluer, mais ça s'en va vers là, puis ça, c'est inévitable, puis ça va falloir accepter ça.
Oui, exactement. Alors je vous le répète, 45 matchs pour RDS, 32 à TVA Sport. Ils vont aussi avoir les séries éliminatoires, et il y en aura 7. Sur Amazon Prime pour le Canadien l'an prochain. Il y a une autre nouvelle qui a été confirmée dans le monde du Canadien de Montréal hier. Derek Lalonde, on le savait que ça s'en venait, mais ça a été officiel, puis il y a comme un détail dans ça qui est intéressant. Officiellement nommé entraîneur associé de l'équipe. C'est Eric Engel qui avait rapporté la nouvelle il y a 2 semaines de ça. Il devrait en théorie remplacer Trevor Letowski, selon ce qui avait été rapporté. Par contre, le Canadien hier a rien mentionné par rapport à Letowski, et sur le site web de l'équipe, le nom de Letowski est encore là. Ce que je trouve intéressant, c'est que le titre de Lalonde, c'est pas entraîneur adjoint, c'est entraîneur associés. Donc, clairement, c'est un titre qui est différent. Il y en a trois autres dans toute la ligue des entraîneurs associés. DJ Smith avec les Oilers, Phil Housley avec les Kings et Jack Capuano avec le Wild du Minnesota. Selon ce qu'on semble déduire, un entraîneur associé, c'est au-dessus d'un entraîneur adjoint, évidemment en dessous de l'entraîneur-chef.
C'est ça. C'est le bras droit, là.
Le genre de bras droit officiel. Derek Lalonde, on le sait, c'est un entraîneur qui a énormément d'expérience. Il a coaché dans la NCAA, dans la USHL, dans la East Coast, dans la Ligue américaine. A remporté deux Coupes Stanley avec le Lightning comme entraîneur adjoint à John Cooper. Par la suite, devient entraîneur-chef avec les Red Wings de Détroit, puis comme n'importe qui a coaché les Red Wings depuis 10 ans, ça n'a pas bien été. Il n'a jamais fait les séries.
C'est vrai.
Et l'an passé, il était assistant avec les Maple Leafs de Toronto. Quel genre de rôle est-ce qu'il devrait occuper? Ben, à Tampa et à Toronto, il s'occupait notamment du système défensif et de l'infériorité numérique. Si on le sait, ça a été deux points faibles, disons, pour le Canadien dans le passé.
Absolument.
Alors, si jamais il s'occupe de ces tâches-là, on peut s'attendre à une amélioration de ce côté-là. Et pour moi, le gros point, c'est aussi l'expérience. Un gars qui en a beaucoup... Pour un staff d'entraîneur qui en a peut-être un petit peu moins. Puis, c'était vraiment pas flagrant, c'était pas si pire que ça, mais c'est vrai que par moment, l'an passé, on avait l'impression que des fois, le groupe d'entraîneurs du Canadien manquait un petit peu d'expérience ou dans certaines situations.
Stagnait un peu.
Il manquait de cette tête grise-là pour être capable de prendre une décision peut-être un peu plus à tête reposée. Le prochain dossier à suivre avec les entraîneurs du Canadien, ben c'est le contrat de Martin Saint-Louis. Pourquoi? C'est parce que son entente, elle expire en 2027. Puis on le sait dans le sport professionnel, que ce soit avec un coach, un DG, tu veux jamais que cette personne-là commence la dernière année de son entente, commence une saison alors que c'est la dernière année de son entente.
Mm-hmm.
Tu veux toujours qu'ils aient plus qu'une année en poche. Point de vue confiance, point de vue peu importe ce qui va se passer pendant l'année, ben au moins... Ça va pas donner droit à une situation qui est peut-être bizarre.
Ouais, point de vue cohésion aussi avec le reste de l'équipe.
Exactement. Tu sais, c'est un dossier de moins à régler. Si vous vous rappelez bien, au bilan de fin de saison de Kent Hughes, au début du mois de juin, il avait dit que c'était absolument parmi les dossiers qu'il allait regarder cet été. Mais bon, ça n'a pas encore été fait. Il y a quand même plusieurs autres coachs dans la ligue qui sont dans la même situation, notamment John Hines avec le Wild, Jared Bednar, l'Avalanche du Colorado, Scott Arneal avec les Jets, Andrew Brunette avec les Prédateurs de Nashville, ainsi que Joel Quenneville. Je pense que c'est une question de temps avant que ce soit fait, mais quand même, ce qui est vraiment fou, c'est que Martin Saint-Louis, c'est le cinquième entraîneur, que ça fait le plus longtemps qu'il est avec son équipe dans toute la LNH.
Ça, c'est fou, hein? On dirait que c'est hier qu'il a accepté le poste.
Vraiment?
Mais
John Cooper,
ça...
Jared Bednar, Rod Brind'Amour et André Tourigny.
C'est ça. Le roulement se fait extrêmement rapidement, surtout dans les dernières années. Et avant, là... Tu as mentionné les autres entraîneurs-chefs qui étaient dans la même situation que Martin Saint-Louis. On s'entend-tu pour dire que Martin Saint-Louis, c'est un des moins stressés dans ce groupe-là?
C'est un chill guy.
Exactement. C'est un chill guy, mais aussi avec la situation de son équipe, je pense que ça va se régler assez rapidement.
Ouais, parce que, tu sais, Jared Bednar et John Cooper, les deux, je vais les mettre dans la même situation parce que ce sont deux gars qui ont gagné la Coupe, deux gars que chaque année, leur équipe, on la voit comme des aspirants.
Exact.
Mais en série, ça fait plusieurs déceptions. Je veux pas dire que leur siège est chaud, mais il se réchauffe.
Jared Bednar plus que John Cooper, par contre, je pense.
Tu sais, écoute, si une de ces deux équipes-là, elle se fait sortir en première ronde l'an prochain, là, il faudrait commencer à s'entendre à des changements, là, parce que c'est pas normal avec une équipe de qualité comme, disons, le Lightning ou l'Avalanche, que tu perdes en première ronde année après année puis qu'ils soient pas retournés en finale de conférence depuis leur coupe. C'est pas normal.
Non, puis tu battes des records en saison régulière. Là. C'est surtout ça, en fait,
qui fait
mal. Là.
Que la barre, tu la mets super haute en saison régulière puis en série, tu déçois.
Exact.
Finalement, toujours avec les entraîneurs, Marco Marciano a toujours l'étiquette d'intérim. Encore une fois, je pense que c'est une question de temps avant qu'il soit nommé officiellement l'entraîneur des gardiens parce qu'il a vraiment fait une super bonne job quand il a été appelé en relève. Mais si tu regardes sur le site du Canadien, son titre, c'est toujours intérim. Il n'y a pas encore d'annonce qui a été faite à ce sujet-là. Je termine finalement en mentionnant qu'il y a eu deux contrats qui ont été octroyés hier. Jared Davidson et Hunter McCown. C'est des ententes d'un an à deux volets. Davidson, on l'a quand même vu par moment avec le Canadien dans les dernières saisons. Mais dans les deux cas, on parle surtout de joueurs pour le Rocket de Laval dans la Ligue américaine. On va prendre une petite pause, Hugo, et au retour... Ben, c'est la fin de la Coupe du Monde, vous le savez, la finale a eu lieu dimanche, mais je pense qu'il est temps qu'on fasse un bilan du tournoi. C'est qui les grands gagnants? C'est qui les grands perdants? Il y en a eu beaucoup et ça va faire pour un bloc très intéressant dans deux minutes.
Max, t'as-tu appelé Desjardins?
Non, c'est ça, c'est que t'as pas besoin d'appeler grâce à l'application Service mobile Desjardins. Mmh. Quand ta carte de débit ou de crédit manque à l'appel, t'es capable d'en recommander une rapidement.
On dirait que tu dis beaucoup « app ».
À part de ça, mettons que ton papa te rappelle de payer ta part de l'apéro.
Franchement.
Non, mais fais un virement. Avec l'appli mobile, tu peux faire la plupart de tes opérations courantes. Oh, excuse-moi. App.
Ben non.
App.
Vraiment.
Happy Chew.
App tes souhaits.
Un burger blasé, un taco tout trempé.
Pas pire poche comme lunch, ça.
Petit plat, pas pire poche.
Qu'est-ce que tu dirais de 5-12 pouces classiques de Subway à moins de 10$ chacun?
Ça, ça sauverait mon lunch.
En ce moment, les 12 pouces viennent à ta rescousse chez Subway. Dinde ou jambon, ou végé délice, ou thon.
Ou comme le classique combiné de viande froide.
T'as comme clairement compris. Tous ces 12 pouces garnis de légumes frais à moins de 10$ chacun. Subway, mange frais, sens-toi bien.
Valide dans les restaurants participants au Canada. Extra taxes et livraison en su. Expire le 31 août. Fraîchement préparé.
En voyage, on prend la pause devant un paysage extraordinaire ou en compagnie d'un ami. Mais pourquoi ne pas en profiter pour faire une pause en cours de route aussi? Pour la sécurité de tous, il est recommandé de s'arrêter après chaque heure de route pour se reposer, s'aérer l'esprit et améliorer sa concentration. Prendre une pause dans un village relais, ça fait aussi partie du voyage. Découvrez plusieurs attraits et services au village avec un s-relais.qc.ca. Un message du gouvernement du Québec.
Expérience Mata transforme le premier vendredi de chaque mois en soirée inoubliable. Mata en spectacle, c'est un grand artiste québécois sur scène. Le 7 août prochain, le grand Kevin Parent sera sur place. En septembre, La Chicane avec ses plus grands succès. Le 2 octobre, un gars de chez nous, Vincent Lemire. Des soirées à ne pas manquer. Et pourquoi ne pas la combler avec votre journée de golf? Consultez la programmation sur expériencemata.ca.
C'est la saison des cornets chez McDo. Les cornets à la vanille sont à seulement 1$ plus taxe tout l'été. Et nos cornets vont vous faire craquer. Seulement 1$ plus taxe, exclusivement sur l'appli McDo. Téléchargement de l'appli et inscription requis dans les McDo du Canada participants.
Rien ne vaut le plaisir de l'été au volant d'un nouveau Buick. Profitez de l'événement Prix des employés pour vous et découvrez des offres exceptionnelles. Faites vite! Rendez-vous chez votre concessionnaire Buick pour en savoir plus.
Vous voulez partir pour Québec, Boston ou même Vancouver? Que ce soit avec ton équipe de hockey ou pour un voyage d'affaires, faites confiance à Autocar Janois. Autocar de luxe, minibus et navette, peu importe la destination. Réservez dès aujourd'hui au 514-390-8935.
Hey, veux-tu aller voir un show? Regarde notre band favorite en ville. Hein, tu vois ça où? Ben, bien.ca. Go!
Billets.ca. Soyez là.
Jusqu'à 10 heures. Fais partie du club.
De Montréal, 514-790-0919. Partout ailleurs, 1-888-790-0919.
Le club du matin. Sur BPM Sport.
Qui sont les grands gagnants et les grands perdants de la Coupe du Monde 2026? On va dresser notre bilan de la compétition. Il y en a beaucoup. On va essayer d'en faire le plus possible. Ben, je vais commencer par les grands gagnants, puis ça, on se cassera pas la tête par rapport à ça, là. Mais les Espagnols. C'est impossible de passer ça sous le silence, leur performance tout simplement dominante. Tu gagnes la Coupe du Monde après avoir gagné l'Euro, puis pas juste gagné la Coupe du Monde, là, mais ils ont dominé la compétition de A à Z. 14 buts pour, seulement un but contre. Ça, c'est un record pour une équipe championne. Ils sont sur une séquence de 38 victoires de suite, et l'Espagne était seulement la 5e plus jeune équipe. Fait qu'au prochain Euro, à la prochaine Coupe du Monde, ils s'en vont nulle part. Ils vont être encore une fois les favoris parce que Lamine Yamal va être encore meilleur, Pau Cubarsí va être encore meilleur, Nico Williams va être encore meilleur. Cette équipe espagnole ne fait que débuter, ne fait que commencer à prendre son envol. Perdant. Ça, il n'y a aucun doute. C'est malheureux, mais ça a été une histoire récurrente pendant la Coupe du Monde. La collusion, la corruption avec la FIFA. L'intervention de Donald Trump pour enlever la suspension à Balogun, ça a ouvert la porte à bien d'autres enjeux. Déjà, le fait que la politique s'implique dans une décision sportive de la sorte et qui appelle une fédération, la FIFA, pour enlever une suspension, c'est complètement ridicule. Quand est-ce qu'on voit ça dans la vie, là? Mais deuxièmement, après ça, juste le fait que la FIFA ait accepté, ait acquiescé la demande de Trump, ben là, t'as ouvert la porte à toutes les autres théories du complot sur l'arbitrage, sur « Ah, l'Argentine est favorisée, ah, ça c'est arrangé, ça c'est truqué. » Vu que tu t'es plié à Trump, ben là, tu t'es exposé encore une fois que la FIFA est une organisation facilement influençable.
La crédibilité a mangé tout un coup là-dessus.
Vraiment.
Mais aussi avec... Il y a plusieurs points aussi par rapport à ça. On peut même parler du fait que Trump était présent aussi pour la photo à la fin. Tu sais, il y a beaucoup de choses par rapport à ça, par rapport à l'implication des États-Unis et de la politique là-dedans. Mais une chose est sûre, la FIFA a mangé une claque.
Ben Gianni Infantino, quand il a été nommé à la tête de la FIFA en remplacement de notamment Sepp Blatter, lui, il était supposé être le gars qui allait redorer l'image de la FIFA. Il était comme, non, la corruption, là, les scandales qu'on a eus, c'est fini avec moi. Ben là, je peux te dire que c'est reparti de plus belle. Puis avec les différentes coupes qui ont été octroyées à l'Arabie Saoudite, avec là, le scandale qu'on a eu du carton rouge de Balogun, ça ne va que recommencer.
Absolument.
Ben un autre gagnant. Les fans de Messi, dans le fameux débat Messi versus Ronaldo. Là, c'est fini, là. Là,
il n'y a plus
de débat. Je peux comprendre avant que la compétition commençait, évidemment, Ronaldo a une carrière incroyable, puis je comprends ses fans. Mais là, ce que Messi a fait à 39 ans, c'est hallucinant. Là. 8 buts, 4 passes, il s'est rendu en finale. Pendant ce temps-là, Ronaldo, il termine avec 3 buts, dont 2 contre l'Ouzbékistan.
C'est ça.
Qui était pratiquement une équipe de Ligue de garage glorifiée. Puis l'autre, c'est pendant un penalty, le Portugal, qui était quand même parmi les favoris pour gagner la compétition, éliminé en 8e. Il n'y a plus de débat, c'est fini. Messi meilleur que Ronaldo, Messi c'est le GOAT.
Je suis d'accord avec toi, puis en plus c'est ça, là, si tu prends le joueur pour joueur, l'impact qu'on a sur notre équipe, c'est incontesté là. Messi, genre, ça a été tellement un bon tournoi pour lui, le meilleur de sa carrière en compétition internationale, en Coupe du Monde, tandis que Ronaldo, là, on voyait que ça tirait de la patte.
Ouais.
Puis que c'était très égoïste aussi. Il y a eu des moments où justement le match où il a marqué son penalty, que il y avait peut-être des touches qu'il n'a pas eu, que ça a été dans les arrêts de jeu. On a été très démonstratif de notre frustration comparativement à Messi. Il s'est laissé emporter par les émotions. Il s'est laissé emporter par le vent et la vague d'amour que l'Argentine a eu tout au long du tournoi. Donc, ouais, effectivement, le débat est clos.
Parmi les autres perdants, la léthargie anglaise qui se poursuit encore. Ils n'ont pas gagné de titre majeur depuis 1966, puis c'est pas juste le fait de pas gagner, c'est la façon dont ils perdent.
Ouais.
Les avances perdues contre l'Argentine, ça avait aucun bon sens de jouer de cette façon-là quand t'avais l'avance. Et on dirait que c'est la même histoire qui se répète à chaque tournoi pour l'Angleterre. Le Harry Kane va être encore plus vieux. Est-ce qu'il va être encore aussi dominant dans 2 ans, dans 4 ans? Je suis pas si sûr que ça. Et ça pèse lourd, là. Écoute, on est rendu à 60 ans sans titre.
Mais c'est ça, mais cette pression-là aussi de 60 ans sans titre fait en sorte qu'on sent la pression et on n'est pas capable de passer à travers.
Chaque tournoi est plus grosse, là.
Exact.
Parce que chaque tournoi t'ajoute 4 ans de plus.
100%.
C'est un petit peu comme les Maple Leafs. Chaque élimination crève-cœur en première ronde, ça fait encore plus mal parce que ça fait encore plus longtemps pour l'année suivante. Tu sais, on a vu les Knicks de Newark, ils vivaient la même situation pendant très très longtemps.
Ouais.
À quel point ça a été un soulagement incroyable au mois de juin quand ils ont gagné le titre dans la NBA. Mais l'Angleterre, les Leafs, je pourrais ajouter peut-être les Cowboys de Dallas à cette liste-là. Les Yankees aussi, ils commencent. Là.
Depuis 2009, ça fait longtemps. Là.
Mais c'est ce fameux groupe d'équipes qui sont hyper riches, hyper puissantes, des marques internationales, là, peut-être les plus grosses marques de leur sport, de leur ligue respective. Puis eux, ils disent tout le temps, on est les meilleurs, puis c'est notre année, puis là, c'est nous, là. Ça se passe enfin. Puis ça se passe jamais. Écoute, pour moi, j'ai ces équipes-là dans ce tiers-là, puis les Knicks en faisaient partie, mais plus maintenant.
Il y a une expression dans le jargon sportif, Oli, que tu connais très bien, qui s'appelle « avoir les yips ». Ça, ça fait partie de ça. Ça fait partie de pas être capable de concrétiser quand le moment compte. Et on l'a vu aussi, là, la prestation d'Angleterre, même dans la petite finale face à la France, là. Comment t'es capable de bousiller une avance de 4-0? 4-0, là. Au soccer, là.
Ouais, non.
C'est ça.
Exactement.
Une chance qu'ils se sont sortis avec la victoire pareil.
Exactement. Très, très bien dit. Hugo, on va prendre une courte pause. Je veux qu'on termine ce sujet-là un petit peu plus tard parce qu'au retour, on a un invité spécial. On a un invité spécial avec nous. Ce sont les 50 ans des Jeux de Montréal. Et il y a quelqu'un qui vient tout juste d'écrire un livre sur la compétition. C'est Pierre Gens. Oui, il y a du négatif, on entend souvent sur les Jeux de Montréal, mais il y a aussi du positif et on lui en parle au retour.
C'est la saison des cornets chez McDo. Les cornets à la vanille sont à seulement 1$ plus taxe tout l'été. Et nos cornets vont vous faire craquer. Seulement 1$ plus taxe, exclusivement sur l'appli McDo. Téléchargement de l'appli et inscription requis dans les McDo du Canada participants.
Rien ne vaut le plaisir de l'été au volant d'un nouveau Buick. Profitez de l'événement Prix des employés pour vous et découvrez des offres exceptionnelles. Faites vite. Rendez-vous chez votre concessionnaire Buick pour en savoir plus.
MAP Hydration, la boisson électrolyte à base de sirop d'érable pur, des électrolytes essentiels et des BCAA. Naturel, efficace et fièrement d'ici. Pour performer, récupérer ou simplement mieux t'hydrater, choisis MAP. Visitez maphydration.com.
Lasagne surgelée, puissance moyenne, pendant 15 minutes. On dirait que c'est l'heure d'Ojo. Prêt à jouer?
Vivez le plaisir sur playojo.net avec toutes vos machines à sous et jeux de casino préférés comme Jungle Beast et Sugar Rush. En plus d'exclusivités que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Hey, j'ai gagné!
Wouhou! Sentir le plaisir, Play Ojo!
Chérie, oublie la lasagne, on doit fêter ça!
Disponible pour tous les joueurs de 18 ans et plus. Ceci n'est pas un site de jeu d'argent. Veuillez jouer de façon responsable.
T'as juste à y aller vite. Ça fait longtemps que j'en fais, je suis correct. Ah, j'en ai juste pris une. Je suis certain que ça passe.
Y'a pas de danger. Pas besoin de casque, c'est pas loin.
Tu ne veux pas que ce soit tes dernières paroles. À VTT, quand tu testes les limites, tu n'es plus en contrôle. Garde ta passion en vie. Un message du gouvernement du Québec.
Marie-Lou, c'est l'événement L'Avenir commence maintenant de Hyundai. C'est quoi le plan de match?
OK, on offre l'Elantra Essential 2026 en location pour seulement 76 $ par semaine avec un boni de 500 $ et 0 $ d'acompte.
Ça, c'est du jeu offensif.
Et nos clients peuvent profiter des taux parmi les plus bas de l'année sur modèles sélectionnés. En plus, l'Elantra est couverte par la meilleure garantie sur véhicule neuf de sa catégorie.
Imbattable! Bon, tout le monde connaît le plan de match. On fonce chez Hyundai.
Location de 60 mois au taux de 4,99%. Des conditions s'appliquent. Visitez Hyundai Canada pour les détails.
Fais partie du club. Le club du matin. Jusqu'à 10h sur BPM Sport.
C'est une célébration dans les derniers jours et dans les prochains jours aussi à Montréal parce que on célèbre les 50 ans des Jeux olympiques qui ont eu lieu à l'été 1976. Et pour l'occasion, ben, on va parler à quelqu'un qui vient tout juste de faire paraître un livre sur le sujet. C'est le président de Mesure Média, Pierre Gens. Il est auteur du livre « Les Jeux olympiques de Montréal, 50 ans, 50 regards » qui est paru aux éditions de l'Homme. Salut Pierre, comment ça va?
Bonjour Olivier.
Comment est-ce qu'on pourrait résumer les Jeux de Montréal en 1976? Parce qu'on a l'impression que quand on parle des Jeux, c'est souvent les mêmes choses qui nous reviennent en tête, mais si tu avais à le faire rapidement, comment est-ce que tu résumerais cette compétition?
Trois éléments fondamentaux. Le souvenir inoubliable de Nadia Comaneci, le gouffre financier de la construction du parc olympique, et aussi un élément très important que l'histoire a peu retenu, c'est les Jeux de Montréal de 1976 ont été des Jeux de qualité et rentables.
Rentables, ah oui, malgré toutes les dépenses, peut-être le stade qui a coûté plus cher que prévu, malgré tout ça, les Jeux ont été rentables.
Oui, parce que je vais tirer une ligne. On va séparer le contenant du contenu. Le parc olympique, c'est le contenant. Donc, le maire de Montréal, Jean Drapeau, qui était maire pendant 29 ans, qui parlait de Montréal en disant « ma ville, mes Jeux olympiques, mon Expo 67 », et il s'appropriait tous les projets sur lesquels il rêvait. Puis c'était un visionnaire, et heureusement d'ailleurs qu'il était un visionnaire. Mais il a piloté, en étant avocat, mais ni comptable, ni architecte, ingénieur, ni chargé de projet. Il avait le nez dans tout. Il allait sur le chantier avec son casque de construction. Il donnait des directives contraires aux employés, à ce que les patrons, les entrepreneurs donnaient. Bref, ça a été tout ça. Et ça a contribué à ce qu'il y ait un énorme déficit. Et là, le parc olympique, c'est le contenant principal des installations, là où ont eu lieu beaucoup de compétitions. Ça, c'est le contenant. Le contenu, ce sont les Jeux olympiques eux-mêmes. Les compétitions dans toutes sortes de disciplines sportives. Ça, ces Jeux-là ont été organisés par le comité organisateur des Jeux olympiques, le COJO, dans lequel le maire Drapeau ne mettait pas ses mains. Et il y a une équipe d'à peu près 25 dirigeants, je le dis au masculin parce qu'il y a eu une seule femme, Sigrid Châtel, sur ce comité-là. C'était comme ça à l'époque. Donc, à peu près 25 personnes qui ont dirigé des centaines d'employés, des milliers de bénévoles, et eux ont piloté de A jusqu'à Z la logistique, la planification des événements, des disciplines. D'ailleurs, Bruce Jenner, devenu Kathleen, disait récemment dans une entrevue que jusqu'à 76, les Jeux de Montréal avaient été les mieux organisés. Et qui de plus crédible pour le dire? Parce que Jenner a remporté le décathlon, c'est-à-dire un total de 10 compétitions. Donc, Jenner a couru, a nagé, a sauté, a tout fait sur toutes sortes d'installations différentes, organisées par des bénévoles différents. Donc, Jenner sait très bien que ces Jeux ont été de qualité. Donc, sa parole vaut plus que la mienne là-dessus. Maintenant, on va parler de dollars. Parce que si on prend le contenant, donc revenu moins dépenses de l'événement, Charlotte, revenu moins dépenses égale profit, ben, c'est facile à calculer. C'est-à-dire, c'est très clair dans le rapport final des Jeux de Montréal en 76. Profit de 230 millions de dollars à l'époque, ça veut dire 1 milliard de dollars aujourd'hui. C'est pas pire, 1 milliard de dollars de profit pour un party de 15 jours.
Alors, puis surtout quand on regarde à quel point les Jeux olympiques dans les dernières années ont été coûteux, à quel point il y a des pays qui se sont endettés pour ça, des pays qui en sont presque jamais sortis ou bien ça a pris des années, des décennies. Je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce qu'on a l'impression que les Jeux de Montréal, ben, ils ont peut-être laissé un goût amer dans la bouche de plusieurs Québécois, peut-être pas à cause de ce qui s'est passé sur le coup, mais un peu plus du après, le stade, le ci, le ça. Pourquoi est-ce que malgré tout ça, selon toi, c'est important de célébrer le 50e anniversaire des Jeux de Montréal?
Parce que si on célèbre les Jeux olympiques de 76, on célèbre un moment marquant dans l'histoire. Si tu me permets, là, je vais te faire un petit cours d'histoire rapide.
Parfait.
Puis on ne peut pas parler des Jeux de 76 sans parler d'Expo 67. Okay? L'Expo 67, on sort de la Révolution tranquille au Québec. Okay? La grande noirceur, tout est contrôlé par l'Église, les écoles, les hôpitaux sont bien gérés, mais gérés dans une culture d'Église catholique. Le premier ministre Duplessis a géré le Québec de façon noire. Arrive 60, le nouveau premier ministre Jean Lesage, c'est l'ouverture, la nationalisation de l'hydroélectricité avec René Lévesque en 62. 67, l'Expo 67. Ça veut dire que les îles Notre-Dame et Sainte-Hélène sont transformées. D'ailleurs, l'île Notre-Dame, elle est presque créée toute pièce au milieu du fleuve pour avoir des pavillons qui ont accueilli des dizaines de pays. Alors, ces gens-là venaient nous présenter qui ils étaient. Leurs costumes, leur nourriture, leur musique, leur culture, et ça, ça nous a ouvert. À l'époque, là, en 67, là, puis jusqu'à quelques années plus tard au Québec, il faut savoir, là, c'était le Moyen Âge, le Québec. On connaissait 4-5 fromages, il y avait 4 bières populaires, on mangeait quelques légumes, quelques fruits. Je ne suis pas sûr même qu'on mangeait des pêches en 1960, dans les années 70. Là, on est loin des litchis puis du kale qu'on mange aujourd'hui. Là. Okay? Donc, on est une société qui est en train de s'ouvrir à partir de 67 grâce à l'ouverture des cultures sur le monde. Et 9 ans plus tard, avec 76, on s'ouvre sur le sport. Jusqu'en 76, au Québec, là, je vais tirer une ligne à grands traits, là, mais les gars jouaient au hockey beaucoup,
ouais,
un peu au baseball, les anglophones au football, les filles faisaient un peu de patinage de fantaisie, ce qui est devenu le patinage artistique, puis that's it, that's all. Dans chaque ville et village du Québec, il y avait un hôtel de ville, une église, une caisse populaire, puis un terrain de jeu, organisé par des bénévoles qui travaillaient bien, là. Mais dans une culture catholique, on faisait jouer les gens dehors, puis sans culture, même pas, il n'y avait même pas de culture de sport amateur au Québec. Arrivent les Jeux olympiques. Et là, Olivier, du jour au lendemain, là, à partir du 17 juillet 1976, c'est marquant dans l'histoire. Parce que là, du jour au lendemain, on découvre que le hockey, ça ne se joue pas juste sur la glace, ça se joue sur du gazon. On découvre que l'athlétisme fait bien plus que de la course. Il y a des sauts en hauteur, des sauts en longueur, des courses de haies, du steeplechase, etc. On découvre que dans les gymnases, puis il y en a très peu, on peut jouer au basketball, au handball, au volleyball, puis à toutes sortes d'autres sports. Et là, on découvre surtout que les sports sont accessibles aux filles aussi. Tu sais, Pierre de Coubertin avait dit, les femmes, là, c'est parfait pour remettre des médailles. C'est comme ça que lui voyait la participation des femmes aux Jeux olympiques. Alors, à Montréal, déjà, on a 19, presque 20 % de femmes athlètes, ce qui est très peu avec nos yeux d'aujourd'hui, mais c'était déjà plus que Munich en 72, puis ça a été un tournant marquant. Puis on peut rajouter à ça, plus, si tu me permets, plusieurs innovations aux Jeux de Montréal. Une femme, d'abord, pour la première fois, Abby Hoffman, a porté le drapeau du Canada à la cérémonie d'ouverture. C'est un beau signal de l'Association olympique canadienne parce que Abby Hoffman était une athlète très revendicatrice, on disait déjà il y a 50 ans, ce que d'autres disent encore aujourd'hui, c'est-à-dire il y a beaucoup trop d'argent au CIO puis il n'y en a pas assez pour les athlètes. Montréal est aussi un moment marquant, c'est-à-dire que, essayons d'imaginer, jusqu'au jeu de 72, au village, dans les villages olympiques, dans les soirées de fraternité entre les gars et les filles, arrive à la fin de la soirée où on dit « Les gars, vous allez à gauche, les filles, vous allez à droite. » Il y avait un grillage qui était descendu, comme dans une étable pour séparer des animaux. Les gars d'un côté, les filles de l'autre, comme quoi ça prenait une grille, un grillage pour séparer les gars des filles pour créer, semble-t-il, le respect. À Montréal, là, le COJO a dit « Non, 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 non. Ici, au Québec, là, on respecte les gens, on leur fait confiance et on va avoir un « s'il vous plaît ». Et le COJO a insisté auprès du Comité international olympique pour avoir un village mixte. Sais-tu qu'est-ce qui est arrivé? Il n'y a pas eu de problème.
Ah non.
Et à partir de 76, les gars et les filles se retrouvent dans des villages mixtes. Ça fait partie de ce qu'on doit célébrer comme ouverture sur le monde à Montréal et à travers le Québec ces jours-ci.
Pierre, qu'est-ce que tu catégoriserais comme la plus grande modernisation sportive qui a amené les Jeux de Montréal sur la ville, mais sur le reste du Québec?
La santé. C'est-à-dire la santé, le goût de bouger. Moi, en 76, j'avais 18 ans. On parlait pas de vélo, on parlait de bicycle. Il y avait aucun de nos parents qui faisait du bicycle. C'était une affaire de petit. Puis dès qu'on grandissait, on mettait ça de côté. 1976 a marqué une accessibilité et une envie de faire du sport. Oui, du sport d'élite, parce que ça s'est ajouté, la culture d'élite s'est ajoutée après, mais la démocratisation du sport pour non seulement les enfants au parc là, et dans les écoles, mais il y a eu une immense démocratisation du sport à partir de 1976, ce qui fait que si aujourd'hui il y a un Tour de Lille, un demi-marathon, puis bien d'autres choses, ça découle de 76. Le premier marathon à Montréal a eu lieu en 1979, 3 ans après les Jeux de 76. Ça veut dire qu'il y a eu un déclic où là, les hommes et les femmes ont eu envie de courir. Commence-le. Le vélo, puis là, rajoutons le Tour de Lille, rajoutons tout un tas d'activités. Puis là, les ligues d'adultes qui jouent au pickleball aujourd'hui. Moi, je pense que tout ça, directement ou indirectement, découle des Jeux olympiques de 1976.
Et Pierre, il y a même eu un risque que les Jeux olympiques de Montréal aient finalement lieu ailleurs. Parce qu'on avait peur que le parc olympique ne soit pas terminé à temps avec la fameuse grève qui faisait en sorte que le mât n'était pas construit. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on s'est retrouvé finalement à est-ce que tout est beau puis les Jeux soient présentés comme prévu à partir du 17 juillet 1976?
Bon, tout n'était pas beau parce que recevoir de la visite quand ta cuisine est encore en chantier, c'est pas le meilleur contexte. Alors, recevoir des athlètes de partout dans le monde, puis la télédiffusion des Jeux en direct dans 125 pays avec un stade qui n'a pas de mât, puis ça paraît qu'il manque un mât. Il était pas là, le mât, mais il était suffisamment haut pour tenir la structure et faire en sorte que la piscine qui est au sous-sol a pu être créée in extremis et contribuer à beaucoup de records du monde qui ont été établis dans cette piscine du Stade olympique. Bon, l'autre élément, c'est que tu parles de, oui, la construction, mais la construction a commencé tard et puisque la date de butoir ne pouvait pas être déplacée d'une seule minute, ben oui, il y a eu des chantiers sur la construction, des conflits sur le chantier, des chicanes épiques et brutales entre les membres de la FTQ et de la CSN. Il y a aussi des entrepreneurs qui ont abusé. On connaît l'image où les camions de béton rentraient sur le chantier, les employés punchaient en bon français, ressortait sans vider, rentrait, punchait encore. Bon, il allait porter le ciment chez des amis, des entrepreneurs. Il y a eu tout ça. Mais il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, l'inflation. Au milieu des années 70, le béton, l'acier, le pétrole, il y a eu une crise mondiale. Il y a des prix qui ont été quadruplés et quintuplés. Évidemment, ce n'était pas prévu dans le budget d'origine, puis c'est une des raisons. C'est un ensemble de facteurs qui font que le parc olympique qui devait coûter au départ 300 millions en a coûté à cette époque, jusqu'à la fin, là, à cette époque-là, 1,6 milliard. Puis là, on ne tient pas compte de tout ce qui a été fait par la suite et les travaux qui sont en cours et de nouveaux travaux qui viennent d'être annoncés il y a quelques jours.
Évidemment, il y a eu plein de performances athlétiques extraordinaires aux Jeux de Montréal. 75 records qui ont été établis. Mais on dirait vraiment que c'est Nadia Comaneci qui, 50 ans plus tard, retient encore le plus l'attention avec son fameux 10 sur 10, la note parfaite. Pourquoi est-ce qu'elle est devenue pas juste une légende, mais une vraie icône au Québec?
Bon, elle en a été la première surprise. Elle me l'a dit notamment. Elle m'a accordé le privilège de signer la préface de mon livre, Les Jeux olympiques de Montréal et nous. Ce qui est arrivé, c'est que, bon, elle arrive, elle a 10 ans pendant les Jeux de Munich. Elle écoute la télé en noir et blanc avec sa mère, puis elle fait de la gymnastique, mais elle est loin, loin, loin de se douter que 4 ans plus tard, elle serait à Montréal, d'abord, médaillée ensuite. Bon, elle arrive à Montréal en 75, d'abord, c'est la première, elle a 13 ans. Elle vient pour les championnats internationaux de Montréal, qui était une espèce de répétition générale, une série de tests pour toutes sortes de disciplines. Première fois qu'elle prend l'avion, elle vient de Roumanie. Et ensuite, elle revient en 76. Ce qui a contribué à la légende, c'est que sa toute première note de 10 sur 10, elle l'a obtenue en équipe, alors que 2 ans avant les Jeux, les gens du COJO avaient demandé à la Fédération internationale de natation, on doit construire un tableau indicateur, quelle sera la meilleure note? Alors, on répond au COJO, un chiffre, virgule, deux chiffres. Donc, le maximum pouvait être 9,99. Là, on est au tout début des Jeux. Le forum est rempli. Les Québécois connaissent peu la gymnastique à l'époque. Et là, la Roumanie performe, les filles culbutent. Et les gens de Montréal sont ébahis et trouvent ça bien formidable. Arrive, la compétition se termine. Et là, au tableau, c'est écrit 1,00. Et la juge en chef est debout, puis avec ses doigts des deux mains, elle clignote pour montrer que c'est 10 sur 10. Et c'est comme ça qu'a été officialisée la première note de 10 sur 10 de Nadia Comaneci. Et ça a évidemment chamboulé le cœur des Québécois, notamment, qui ont rempli le forum, des médias qui en ont parlé. Et ça, puis là, tout de suite après, elle a enchaîné d'autres compétitions en équipe et individuellement. Elle a performé partout, comme tu sais. Et tout ça, ça a contribué au mythe. Rajoute qu'elle parlait français un peu, ouais, avec un accent sympathique. Elle était grosse comme une puce, puis elle est devenue une grande vedette. Puis il y a le contexte québécois aussi. Tu sais, on avait eu, quelles étaient les femmes qui avaient été, qui avaient dominé dans des sports au Québec jusqu'à ce moment-là? Justine Bourassa au golf. Tu sais, elle n'avait pas été une personne, elle n'avait pas une personnalité.
Le sport féminin au Québec n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, là.
Non, puis c'est pour ça que moi, je dis, on en avait à toute fin pratique pas d'athlète féminine dominante. Et là, elle en arrive, puis elle a fait ça. Alors moi, je dis, avec beaucoup d'affection, Nadia Comaneci, elle était notre mari Philippe Poulin, 50 ans avant l'autre.
J'aime beaucoup la comparaison. Ouais. Très, très, très intéressant. Merci beaucoup, Pierre. Il faut aller vous procurer son livre « Les Jeux olympiques de Montréal, 50 ans plus tard. 50 ans, 50 regards. » C'est disponible dans toutes les librairies aux éditions de l'Homme. Merci beaucoup, Pierre. Bon 50e des Jeux et passe une belle journée.
Merci à vous aussi. Bonne journée.
Bye. Merci beaucoup à Pierre Gens. Hugo, on va prendre une courte pause et au retour, c'est le dugout. Ça va vraiment plus pour les Blue Jays, sérieux. Là, même les joueurs qui allaient bien, même les joueurs qui connaissent